question de la moyenne de l'écologie politique, je dirais que ce n'est pas un événement pour eux, parce que c'est un modèle, on l'a dit, qui avoue ne pas être de concurrence. Ça reste libéral, ça reste une logique de marché. Quand on a une logique où on remet en cause la productivité, la croissance à tout va, on ne peut pas admettre même idéal en tant que tel. C'est vrai qu'il n'y a pratiquement pas de discussion sur ce modèle dans l'écologie politique. Hein. Il y a un débat sur est-ce que les coûts sont vraiment bien estimés, est-ce que les bénéfices seront partagés. Mais sur la viabilité, pour eux, ça reste un modèle encore, avec une solution unique, le marché. Donc, tant qu'il y a des solutions, c'est pas forcément un modèle à discuter. Sur la question du modèle idéal, je pense qu'il y a trois choses peut-être à souligner. C'est que c'est un modèle circulaire fermé. Ça plaisait beaucoup à l'époque de voir qu'on pouvait travailler comme un écosystème. Dans les métaphores utilisées, c'était une théorie. Enfin, le courant d'écologie politique industrielle a vraiment bâti son cheminement sur cette notion. Puis pour oublier que les années 80, c'est le même la référence. La référence, c'est la flexibilité qui apparaît doucement. Donc derrière l'industrie, il y a effectivement le licenciement qui est rapide, mais en même temps, on sécurise le parcours professionnel. Donc il y a tout un débat sur l'environnement, le milieu social. C'est pour ça qu'on faisait du développement durable, qu'on avait tout un modèle qui parlait de cette notion. Peut-être dernière chose qu'il ne faut pas oublier par rapport à ce modèle, c'est que si vous avez en mémoire le rapport Bretland, qui est le rapport qui est fini, hein, des développements durables, il sort en 87. En même temps, au même moment à Saint-Etienne, il y a un cabinet de consultants qui va sortir les trois sphères, économie, sociale et environnement. Et les gens qui font l'écologie industrielle ont eu ces trois sphères, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti un rapport très rapidement, un article scientifique, qui présentait les grands défis à relier. Quand tu me disais à quoi faisaient référence les défis environnementaux, ils ont identifié valorisation, effectivement, des déchets, ils ont identifié...
Tu marquais défi du développement durable, ce qui n'est pas tout à voilà. fait la même chose.
Et bien, si tu veux, dans le rapport de ces Frosch et Galopoulos, c'est le responsable de la recherche chez General Motors, et puis le responsable des ressources humaines chez General Motors. Quand ils sortent ce rapport, article scientifique qui sort dans Science, donc à l'époque c'était quand même important, ils ont déjà en tête ces trois sphères faites dans un cabinet pour les ingénieurs, et en même temps les défis qu'il faudra relever. Donc voilà, l'écologie industrielle répond à votre demande. Donc on a les solutions. Donc c'est pour ça qu'on était vraiment sur l'idéalité. Sur
oui, enfin, je posais cette question-là parce qu'il me semble que tu plaçais l'écologie politique comme répondant aussi, ou comme devant répondre aussi, à ce que tu appelais défi du développement durable, ce qui a priori n'est pas vraiment le
non,
cas.
Non, on n'est pas sur la même chose voilà. pour l'écologie politique. C'est vrai que c'est pas le même débat, parce que là, d'un côté, on a l'écologie industrielle qui veut porter le développement durable, de l'autre, l'écologie politique qui condamne. Autrement dit, pour eux, c'est une douce berceuse, c'est un concept alibi, voilà, c'est un truc occidental qu'on veut vendre à tout va, mais qui ne revient pas sur les fondamentaux. Sur l'innovation, je suis entièrement d'accord, on n'est pas sorti d'innovation technique, autrement dit, de combinaison technique. Pour l'instant, à chaque fois qu'on parle d'innovation, c'est une modification sur la combinaison travail-capital, et forcément, on parle de productivité. Et un bon exemple, hein, quand on dit on augmente la productivité, on parle de temps de travail et de temps de loisir. On ne parle pas du temps de travail, du temps de non-travail. Forcément, quand on ne travaille pas, on prend des loisirs. Bah, ça montre bien que la vision qu'on a, c'est un petit peu une flânerie de travailleurs hein, qui, ne travaillant pas, prennent des loisirs. Donc, on est vraiment toujours ancré dans la productivité. Alors peut-être avec quand même une tendance qui change, c'est avec les pôles de compétitivité, parce que là on a vu apparaître que l'État pouvait avoir un rôle important, un rôle de précondition à la sphère privée, et ça c'est un petit peu nouveau parce qu'on a longtemps condamné l'innovation qui venait par l'État et le rôle de l'État, et là on remettait l'État comme non pas le garant d'innovation, mais celui qui mettait les conditions pour qu'il puisse y avoir l'innovation. En fait, il y a peut-être un cheminement sur l'organisation en tant que telle. L'autre point c'est sur les économistes. Faire attention, ce que j'ai présenté, c'est la vision de 1% des économistes. Hein. Les 99% qui restent, on l'a dit, ils font de l'économie de l'environnement, travaillent sur la valorisation de l'environnement. Autrement dit, aujourd'hui, il y a un grand débat sur la valeur des services des écosystèmes. On veut chiffrer, on veut évaluer. Hein. Que vaut une forêt, que vaut un océan. Bon, je ne suis pas contre l'évaluation, ce qui me gêne, c'est le prix. On peut évaluer, mais sans basculer sur un prix de marché. Donner une valeur aux choses, elle peut être subjective, elle peut être objective, mais dès qu'on bascule sur un prix, il faut un marché. Donc là, c'est une offre et une demande, c'est plus la même chose.
C'est la notion de bien commun, par exemple.
Voilà, ça c'est intéressant. C'est quoi on peut avoir un bien commun qui donne une valeur. Oui. Et je crois que là, on est quelques-uns en économie à se rapprocher des anthropologues pour dire que la valeur a du sens, on peut donner une évaluation. Et on sait qu'il y a des critères objectifs qui vont apparaître. Je ne sais pas si je pourrais apparaître deux photos, un ours polaire et une araignée, vous demanderez laquelle sauvegarder où comme espèce. il y aura 90% qui vont lever le doigt pour le scolaire et pas l'araignée. Donc en fait, c'est vrai que dès qu'on rentre dans l'évaluation, on rentre dans les critères qui sortent un petit peu de l'objectivité. Ce qui est gênant, c'est lorsqu'on bascule vers le prix, où là on a un outil qui est quand même différent.
Est-ce que je peux juste poser une question? Vous n'avez pas prononcé le mot décroissantiste avant que les économistes c'est battu chez vous, etc. Alors pourquoi c'est une stratégie? Parce que vous ne voulez pas qu'on parte dans le débat sur la décroissance à cette occasion-là, ou c'est qu'en fait c'est des trois ensembles de travaux un peu différents?
Non, on n'est pas tous d'accord. Moi j'avais ramené, parce qu'on a sorti un ouvrage sur l'écologie industrielle et politique, moi je mettais dans l'écologie politique la décroissance. Puis j'ai eu Serge Latouche qui me dit mais pas possible, nous ne sommes pas dans l'écologie politique. Autrement dit, nous refusons le développement durable, donc je ne comprends pas qu'on puisse associer décroissance et développement durable. Donc voilà, il y a des positionnements, même si on sait que les racines sont bien là. Latouche, c'est élu, pour lui, c'est l'un de ses pères fondateurs, donc il y a des liens. Et en même temps, on voit bien qu'il y a une radicalisation. Je pense à Sachs aussi, Sachs, c'est sur l'éco-développement. Lui, il refuse complètement la notion de développement durable. Pour lui, ça a été un consensus onusien à l'époque qui a complètement modifié le projet de départ et il a vu son modèle éclater brutalement à cause de Groenland. Donc dans l'écologie politique, il y a aussi des tensions par rapport à ça. Sur les villes durables, moi j'ai des collègues, et nous on est sur un projet effectivement de métabolisme, où effectivement on chiffre les flux d'entrée, les flux de sortie, qui sont des flux à la fois d'énergie et de matière. Comme on dit, on peut chiffrer l'oxygène qui rentre dans une ville, on peut chiffrer les produits recyclés, non recyclés. Donc il y a effectivement un gros travail qui est fait. Alors, ça vient d'Amsterdam, qui est la première ville, Genève, à faire ceci. Mais en Ile-de-France, maintenant, j'ai une collègue qui fait ça tous les ans, un professeur de bilan du métabolisme en Ile-de-France. Ce qui est plus compliqué parce qu'on n'est pas sur une ville. Hein. Là, on est sur quelque
chose de plus large. Ouais, c'est dès qu'une ville serait du pas sans métabolisme physique et physiologique.
Juste pour répondre sur qu'est-ce que font ou comment se positionnent les économistes, à mon avis, il y a un débat qui est vraiment très important aujourd'hui qu'il faut bien situer. On parlait, nous, avant, de développement durable. Maintenant, on parle de durabilité. Et pourquoi on en parle? C'est parce qu'on s'est aperçu qu'il y a deux manières de voir. Où on se dit que quand on est sur la durabilité, elle peut être très faible. Je veux me contenter d'un peu de durabilité. Et là, on va dire qu'une production marchande me fait entrer dans une durabilité faible. Ou alors je peux estimer que la durabilité peut être forte, et si je fais ça, je sors du marché pour aller sur une vision patrimoniale. Et là, je vais expliquer par exemple que du capital naturel, c'est différent que du capital culturel. Autrement dit, je ne vais pas assimiler les deux. Il y a plusieurs formes de capital que je vais devoir, moi, sauvegarder. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tout un débat, et je vois plein d'organismes aujourd'hui qui tentent de parler de durabilité forte, et de ne plus parler de solutions marchandes, mais de solutions patrimoniales. Quand je dis patrimonial, il faut bien comprendre, c'est que vous rentrez la valeur des biens à leur coût historique. Vous avez acheté, il peut y avoir obsolescence, vous retirez l'obsolescence, mais vous retrouvez le coût historique. Alors que si on prend la valeur du marché, votre bien peut chuter de 30, 40, 60% en fonction du prix du marché. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'économistes qui nous disent, mais si on fait du développement durable, revenons à une logique patrimoniale. Prenons les capitaux tels qu'ils existent, hein, naturels, culturels, historiques, et retirons l'obsolescence pour juste avoir une mesure qui est la valeur du patrimoine. Et ça, c'est important parce qu'il y a plus de fluctuations. Là, on a une vision quand même qui est assez pertinente. Dernière chose, peut-être sur la symbiose. Je suis entièrement d'accord. Quand on discute avec les gens de Kalundborg, ils sont conscients que c'est une collaboration, mais que chaque élément de la chaîne est primordial. Pour l'instant, on considère que ça ne peut fonctionner que par rapport à des grosses entreprises, on l'a dit, de proximité. Alors, ils m'ont dit, mais moi je leur ai dit, mais qu'est-ce qui se passerait si l'un disparaissait? C'est leur hantise. C'est qu'effectivement, il faut des bases stables, donc la croissance économique, c'est sûr, également la viabilité du projet. Eux, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils existent parce que chacun a fait en sorte qu'ils puissent exister. La non-concurrence fait que, puisqu'on est conscient que la chaîne fonctionne par collaboration, on fait tout pour que les autres perdurent. Donc il nous disait qu'il y a une forme de caisse de péréquation. Dans le dispositif, ça signifie que si certains font des pertes, il y a une caisse qui peut l'aider pendant un certain temps à continuer à fonctionner.
Oui, mais le problème, c'est que quand on a affaire à des multinationales, les stratégies multinationales ne sont absolument pas compatibles avec ces microsystèmes. Donc ils peuvent, du jour au lendemain, enlever un maillon de leur propre chaîne et faire tomber tout l'édifice, quoi.
Mais, chaîne locale. Ce que tu disais, on est quand même sur le district industriel.
plus sur une logique de grandes firmes multinationales, mais de firmes qui restent grandes quand même, parce qu'elles sont, leur taille est importante, hein, mais qui restent sur une proximité de relations et qui n'envisagent pas un développement international. Le cas d'Arcelor, si on comparait avec Stiekol, la petite raffinerie du Danemark, voilà, elle se réduit à raffiner, je crois que c'est une proximité de pratiquement 10 grandes communes. Voilà, on a relativisé un petit peu la portée, même si ça reste quand même de grosses entreprises. J'ai pas évoqué l'intérieur, parce que c'était pas le même diapo, mais j'avais développé, mais bon, comme Christophe est quand même mieux placé que moi pour le faire, je vais pas en plus faire pour le faire.